Windmere.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette émission Point de Mire. Quand trois académiciens de l'Académie des sciences s'aperçoivent que décidément on n'apprend plus la science à l'école ou qu'elle n'est plus guère enseignée, que font-ils ? Ils s'alarment, ils s'alertent et, abandonnant une partie de leurs activités, ils décident d'aider les maîtres des écoles primaires à faire aimer et découvrir la science aux jeunes élèves. Ces trois académiciens, ce sont Georges Charpak, physicien des particules, prix Nobel de physique, Pierre Léna, astrophysicien, et Yves Quéré, physicien des solides, trois académiciens, tous trois membres de l'Académie des sciences, et c'est ainsi qu'ils ont fait naître l'aventure de la main à la pâte, dont nous allons parler aujourd'hui avec mon invité, Monsieur Yves Quéré, membre de l'Académie des sciences. Monsieur Quéré, bonjour.
Bonjour, madame.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie pour nous raconter cette aventure que vous avez entreprise il y a une dizaine d'années. Racontez-nous comment est née cette aventure de la main à la pâte.
Oh, elle est née de façon tout à fait imprévue. Nous nous réunissions tous les trois et puis nous avons appris que la science avait pratiquement disparu de l'école primaire en France, de façon très curieuse, très inattendue et très anormale au fond. Et que plus précisément, c'était environ 3% des classes qui faisaient encore, il y a une dizaine d'années, des sciences à l'école. C'est-à-dire 97% qui n'en faisaient plus.
Mais que faisait-on donc à l'école alors
si alors, on n'apprenait pas les sciences ? Alors, la priorité avait été donnée de façon très raisonnable, d'ailleurs par les ministres successifs, la priorité avait été donnée au fameux lire, écrire, compter.
Voilà,
qui s'en plaindrait.
C'est basique, oui.
Mais du coup, quand on donne une priorité, ça veut dire que les autres matières ne sont plus prioritaires. Et beaucoup, beaucoup, une grande proportion, une majorité énorme même d'instituteurs, ont fait se lire, écrire, compter le matin, et puis l'après-midi, on fait des matières dites secondaires. Alors, histoire, l'histoire a survécu, la géographie. Mais les sciences sont passées, si j'ose dire, sous le tapis. Parce que, pour des raisons diverses, mais parce qu'elles sont considérées très à tort au niveau du primaire comme trop difficiles. Et alors donc, 3%, ça nous semblait tout à fait impensable qu'un pays comme la France, où il y avait une forte tradition scientifique, soit descendu, si je peux dire, à ce niveau. Alors nous sommes allés voir le ministre de l'époque, c'était M. Bérou, et nous lui avons proposé une toute petite expérience très modeste, 400 instituteurs volontaires et faisant ce que nous avons en effet appelé la main à la pâte, c'est-à-dire une science rénovée, fondée complètement sur l'expérimentation, sur d'abord l'observation des faits, les questions des enfants, l'observation, les hypothèses des enfants et une petite expérience faite en classe par les enfants eux-mêmes et non pas par l'instituteur. Et puis, ces 400 instituteurs ayant très bien fonctionné la première année, c'est devenu 800 l'année suivante et puis 1800 la troisième année et maintenant, c'est devenu une assez grande entreprise en France.
Donc, ces instituteurs, ils ont trouvé en vous et en l'Académie des sciences un véritable soutien maintenant. L'Académie des sciences s'est engagée dans cette affaire ou c'était seulement vous, trois personnes ou...
Pas du tout. L'Académie des sciences s'est immédiatement engagée et à notre surprise, parce qu'on pouvait penser que l'Académie des sciences aurait été un petit peu réticente de voir qu'elle s'intéressait tout d'un coup aux bambins des écoles primaires. Eh bien, pas du tout. En juillet 76, nous avons bénéficié d'un vote unanime de soutien à cette action et depuis, nous n'avons jamais cessé d'avoir le soutien de l'Académie qui a été essentiel au fond. Parce que l'Académie a représenté pour l'institution de l'enseignement primaire, et notamment tous les instituteurs, maintenant on dit professeurs des écoles, une sorte de magistère, enfin quelque chose qui était sérieux et qui avait la durée.
Ça les a mis en confiance.
Ça les a mis en confiance, incontestablement.
Donc, quand vous dites, vous, je vois que vous utilisez les sciences au pluriel, comme on disait, mais on dit aussi la science. Mais de quelle science parle-t-on quand on s'adresse à des enfants de l'école primaire, c'est-à-dire avant la sixième en vérité ?
Les sciences, la science, c'est une très bonne remarque, parce que nous, j'ai dit les sciences un petit peu par erreur, nous voulons parler de la science, du moins aux enfants des écoles. Plus tard, quand ils seront à l'université, il faudra bien qu'ils choisissent entre la physique, la biologie, l'astronomie, etc. Mais nous disons à l'école primaire, la science pour bien montrer aux enfants que c'est une vision. Qu'est-ce que c'est la science ? C'est une vision globale que nous portons sur la nature qui nous entoure. C'est l'ensemble de nos questions, de nos observations. Vous savez, la science, ce sont d'abord des questions. Le scientifique, c'est un homme et une femme qui regardent la nature, se posent des questions et souvent dit « je ne sais pas ». La science repose au fond sur la phrase « je ne sais pas » et non pas du tout sur une certaine phrase qui serait « je sais ». le scientifique ne sait pas, sinon il ne ferait pas de science. Donc la science, c'est ça, c'est l'observation de la nature, et puis une tentative bien difficile de compréhension. Donc observation, regard sur la nature et tentative de compréhension.
Donc vous avez dit qu'il était important dans cette démarche où on apprend aux enfants la science, disons, que les questions viennent d'eux-mêmes et non plus du maître, de l'instituteur qui enseigne un savoir. C'est une démarche un peu inverse de ce qu'on faisait autrefois, ou même quand on apprend l'orthographe, c'est le maître qui dit. Ce ne sont pas les enfants qui posent les questions. Alors là, c'est une démarche différente.
C'est vrai encore que bien sûr, on attend du maître qu'il guide la classe et qu'il donne des réponses bien finales. Sûr, oui. Si elles ne viennent pas toutes seules. Mais nous aimons que ces séances de science commencent par des questions des enfants. Ils en posent tellement, nos enfants, les pourquoi, les comment, etc. Et que l'enfant ayant posé une question, un enfant ayant posé une question sur la nature, eh bien, le maître n'y réponde pas. Et au fond, renvoie la question aux enfants. Vous, les enfants, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles seraient vos idées sur cette question? Autrement dit, En science, nous dirions quelles sont vos hypothèses. Il ne va peut-être pas employer ce mot, mais c'est les hypothèses des enfants. Naturellement, ces hypothèses sont probablement naïves, probablement fausses, pas toujours d'ailleurs, mais probablement. Et c'est l'expérience qui va distinguer les hypothèses les meilleures des moins bonnes.
Alors, quel genre d'expérience peut-on faire avec des enfants qui ont quoi, entre 7 ans et 11 ans?
Oh, vous savez, nous avons des leçons parfois. Quelquefois merveilleuses, pas toujours, mais quelquefois des leçons merveilleuses de science à l'école maternelle. Je me rappelle une école dans les Yvelines où des enfants de 4 ans à peu près avaient tracé dans la cour, c'était une journée de juin, le dessin à la craie, le dessin de l'un d'entre eux aux différentes heures, 9h, 10h, 11h, le dessin de son ombre. Toujours le même enfant, bien sûr, dans le petit cercle à la craie. Et puis, à la fin de la journée, j'étais là, j'ai assisté à une leçon magnifique d'une institutrice qui leur a essayé de faire comprendre qu'est-ce que c'était que ce dessin. On voyait des sortes de pétales, n'est-ce pas? Et après des réflexions passionnantes pour moi, les enfants hésitaient, ils ne comprenaient pas très bien. Puis tout d'un coup, il y a une petite fille qui a dit cette phrase étonnante, « Maîtresse, ça a tourné. » Une phrase gauche, une phrase un peu curieuse, « ça a tourné ». Qu'est-ce qui avait tourné? Elle ne savait pas très bien. Cette petite fille avait compris que ce dessin sur le sol représentait une rotation de quelque chose. Évidemment, c'était la rotation du soleil dans le ciel. Mais vous voyez, ça,
oui,
c'était 4 ans.
Oui, c'est merveilleux. Oui, absolument. À 4 ans, donc elle avait observé.
Et 4 ans, elle a pu faire... Alors après, elle a fait toute une leçon sur l'ombre, sur le soleil, la rotation apparente du soleil, etc. 4 ans.
Oui, donc c'est tout à fait...
Alors plus tard, bien sûr, quand ils ont 7, 8, 9 ans, on peut faire des choses un peu plus précises. On peut leur faire mesurer. On peut leur faire mesurer, par exemple, je sais pas. On met un thermomètre, c'est d'une simplicité, je dirais, enfantine, justement. On met un thermomètre dans de l'eau, une petite chaufferette, l'eau chauffe. Toutes les minutes, un enfant mesure la température. Alors 58, 59, 71. Les enfants font un petit graphe de la température en fonction du temps et ils obtiennent la loi de l'ébullition. Tout d'un coup, la température n'augmente pas. Voilà le genre, parmi des centaines d'expériences qu'ils peuvent faire.
Est-ce que, justement, les instituteurs qui décideraient donc de participer à cette démarche, la main à la pâte, ça nécessite un matériel, un outillage, quelque chose pour faire des expérimentations?
Ça nécessite d'abord de l'enthousiasme, une volonté de se lancer dans cette aventure. C'est un peu une aventure pour les instituteurs qui, comme vous le disiez tout à l'heure, sont habitués à dire, parler pendant que les enfants écoutent. Et là, c'est une opération un petit peu inversée. Donc, ça demande un peu de courage, je dirais, d'abord. Alors, pour le matériel, il y a deux cas. Il y a des cas où le matériel est infiniment simple. Une petite bouilloire, comme je disais tout à l'heure, un thermomètre, tout le monde a ça. Et ça, c'est presque rien. Des morceaux de bois, quelquefois, des bouteilles en plastique. C'est incroyable le nombre d'expériences qu'on peut faire avec une bouteille en plastique,
simplement.
De l'eau, des glaçons, etc. Et puis, nous avons mis au point, avec des éditeurs, avec des entreprises, la fabrication de mallettes qui donnent alors aux écoles, à l'échelle souvent des municipalités, ce qu'on appelle en anglais des kits.
Un kit,
des
voilà,
sortes
oui.
de mallettes de matériel un tout petit peu plus élaboré, mais pas beaucoup plus.
Il y a des principes qui sont justement que vous avez, je ne peux pas dire édictés, mais enfin sur lesquels vous avez veillé pour que la main à la pâte soit véritablement un apprentissage de la science comme vous le souhaitez. Dans ces principes, il y a d'abord que ce sont les enfants qui observent un objet du monde réel proche d'eux. Est-ce que vous avez peur que les enfants ne regardent plus le réel et ne s'intéressent plus qu'au virtuel, par exemple?
Exactement. Alors d'abord, pourquoi avons-nous rédigé, en effet, c'est pas édicté, nous avons rédigé ces principes, pourquoi l'avons-nous fait? Parce que après deux ans, peut-être environ deux ans, trois ans de fonctionnement de cette main à la pâte, nous avons constaté qu'avec un certain enthousiasme sympathique, beaucoup de maîtres d'école disaient « Ah, moi je fais la main à la pâte » et on s'apercevait qu'en fait ils faisaient quelque chose qui était assez loin de nos idées. Alors il nous a semblé bon de dire « Écoutez, voilà 10 principes, il n'était pas question pour nous de les imposer, nous ne sommes pas du tout le ministère, mais voilà 10 principes, si vous en suivez au moins 6 ou 7 ou 8, alors vraiment vous pouvez dire que vous êtes main à la pâte. » Et alors, bon, en effet, dans ces principes, le premier consiste à souhaiter que les enfants regardent des objets réels. Nous avons un petit peu, pour prendre une formule extrémiste, demandé aux instituteurs de mettre les ordinateurs et surtout les écrans dans le placard pendant la leçon de science. Nous ne voulons pas que les enfants fassent de la science sur un écran. Bien sûr, pour quelques vues, c'est évident que c'est très intéressant. Si on veut leur montrer ce que c'est qu'une galaxie, ils ne peuvent pas mettre ça sur la table. Il faut bien leur montrer des photos, des choses comme ça. Mais pour la plupart des expériences que nous souhaitons qu'ils fassent, en botanique, en physique, en mécanique, en chimie, il faut qu'ils manipulent eux-mêmes, qu'ils retrouvent le contact des objets de la nature.
Et avec les mains, justement.
Et avec les mains, avec les yeux.
Est-ce que la main parle au cerveau? Est-ce que c'est peut-être ça?
Les Suisses qui ont adopté, enfin les Suisses, la Suisse romande qui a adopté cette méthode, nous avons d'excellents rapports avec la Suisse, a appelé ça « penser avec les mains », ce qui est sans doute une meilleure formule que la main à la pâte. Nous avons appelé ça la main à la pâte un peu vite, ce qui semble mettre le cerveau de côté. Les Suisses ont appelé ça « penser avec les mains », ce qui est une expression d'ailleurs de Denis de Rougemont, du sociologue suisse. Mais bien sûr, nous pensons que les mains et le cerveau, les mains c'est un mot générique pour dire les sens, n'est-ce pas?
Oui, oui,
les yeux, les oreilles.
Je vois que dans ces 10 principes, il y a aussi plusieurs de ces principes de la main à la pâte qui ont l'air de vouloir inviter les enfants et leurs instituteurs à s'implanter dans le quartier localement, ou en tout cas à solliciter les gens du quartier. Il y a une sorte d'implication, j'allais dire, citoyenne, puisque le mot est à la mode, au moins, ne pas être en dehors du monde autour de soi, c'est un de vos objectifs aussi?
Oui, parce que dans cette opération, nous avons souhaité, bien sûr, c'était le point initial, que les enfants refassent un peu de science, c'est la moindre des choses, mais c'est pas vraiment notre but principal. Notre but principal, c'est de leur former l'esprit, de les introduire à un monde qui est au fond universel. Une pierre tombe de la même façon à Téhéran, à Parézo, à Paris, à Neuilly ou à Sarcelles. Donc la science a un côté universel extrêmement important à développer, qui montre aux enfants que leur globe, leur monde à eux, notre monde est un grand village, comme on dit maintenant, et qu'il y a donc le sens de l'universalité à développer chez eux. Mais sans aller jusqu'à l'universel, sans aller jusqu'à la Chine ou au Chili, il faut que déjà dans leur quartier et déjà dans la famille, les choses soient faites en harmonie. Nous avons en fait un grand souci que l'enfant parle de science dans sa famille, et notamment dans des familles très défavorisées, très peu cultivées. L'enfant qui a fait bouillir de l'eau, vous voyez, et qui a vu, qui a mesuré que la température n'évoluait plus une fois que l'eau avait atteint 100 degrés, il peut rentrer à la maison et chez lui dire « Maman, tu sais, quand tu fais cuire ta soupe, c'est pas la peine de mettre le plein gaz. Quand la soupe bout, elle bout, ça n'ira pas plus loin. » Vous voyez, il peut discuter. Nous avons 1000 exemples comme ça de cas où l'enfant est revenu dans sa famille, des familles d'immigrés en particulier, et où il y a eu un contact tout nouveau de ses parents avec l'école.
Oui, certainement. Donc, c'est au fond votre objectif, il est évidemment de permettre aux enfants d'acquérir des connaissances scientifique, mais aussi un regard scientifique sur le monde autour d'eux, mais aussi vous voulez éduquer en eux l'homme aussi dans son respect de l'autre. Est-ce qu'apprendre la science, ça permet d'apprendre à respecter l'opinion d'autrui, à en tenir compte, à ne pas se croire le centre du monde, ce qu'on appelle éduquer finalement?
En principe oui, parce que quand dans la phase où les enfants font leur expérimentation, ils sont donc par petites tables de 4 ou 5, ils discutent entre eux, il y a un aspect travail en équipe, mais ils écoutent, ils sont bien obligés d'écouter ce que dit la petite Isabelle, ce que dit le petit Jean-Baptiste, et de discuter, de ne pas être forcément d'accord, et puis tout d'un coup, le maître du jeu sera là pour leur dire où est la vérité, si on peut appeler ça la vérité, c'est l'expérience elle-même, n'est-ce pas? C'est la nature qui répond. Et cela, je crois, doit leur apprendre ce que vous appeliez tout à l'heure, hein, une certaine forme de citoyenneté. J'ai été très frappé d'une visite d'une ministre chinoise dans une école qui faisait la main à la pâte dans l'Essonne, et qui, en sortant de cette classe, m'a dit « Vous voyez ces enfants, ils ont appris un peu de science. » C'est très très bien. Elle était elle-même ingénieure, c'est une formation scientifique. C'est très bien. Bon, je comprends. C'était une leçon sur la dissolution du sucre dans l'eau. Mais ils ont appris beaucoup plus. Regardez, ils ont appris le travail en équipe. Ils ont appris une certaine forme de modestie. Parce que, regardez, vous vous rappelez ce petit garçon qui roulait des mécaniques? Eh bien, il a vu qu'il avait tort. Ils ont appris le discours ensemble. Ils ont appris la liberté de penser. Eh bien, tout ça, me disait-elle, c'est elle qui parlait, c'est le chemin de la démocratie.
Alors, monsieur Yves Quéré, est-ce que tout ça n'est pas né d'une nostalgie que vous auriez voulu vous transmettre à des enfants? Mais vous avez certainement été professeur, vous avez vous-même enseigné les sciences.
Oui, j'ai été longtemps professeur à l'école polytechnique, mais évidemment c'est un peu à un autre niveau, mais c'est la même idée. C'est la même idée qui est de transmettre une ouverture sur la culture. La science est évidemment une province, et des plus belles, de la culture universelle. On a un peu tendance, notamment en France, à parler de la culture d'un côté, où il y aurait ce que j'adore d'ailleurs, la littérature, l'art, la musique, la peinture, etc. Et d'un autre côté, la science et la technique. Je n'en crois rien. La science a un lien formidable avec le langage, par exemple. Et ça a été une des premières surprises merveilleuses pour nous de savoir que les maîtres qui enseignaient la science de cette façon voyaient en fait presque aussitôt un résultat sur la maîtrise du langage. Il y a un lien fort
entre science et langage. Ce qui est très important, justement,
absolument.
En ce moment, alors qu'on parle beaucoup de ces acquisitions,
absolument,
oui, le rapport
absolument.
Au langage.
C'est une forme, oui. Nous sommes plus importants qu'ils sachent parfaitement parler que de penser qu'ils savent de la science.
Parce qu'ils apprennent donc à formuler la question,
exactement.
À comprendre la réponse,
exactement.
Et à exprimer leur pensée ou leur interrogation de manière très juste et très précise. La science, ça n'admet pas tellement d'ambiguïté poétique,
enfin,
j'ai envie de dire d'ambiguïté romanesque.
Ils apprennent d'abord, en effet, ils enrichissent leur lexique. En poésie, ils vont parler de l'arbre, et c'est très bien, Dieu sait. Mais en science, ils vont parler de l'épicéa, du sapin, du mélèze, enfin, on va
voilà.
Leur, il y aura
il y a une
lexique
précision,
se précisera.
Oui.
Et puis, la syntaxe prend forme. C'est une observation, je dirais presque expérimentale, que nous disent les instituteurs eux-mêmes. La syntaxe prend forme quand un raisonnement a été fait sur une expérience, sur une suite d'hypothèses et d'expériences.
Alors, il y a aussi des questions que je trouve, alors dans votre livre, je n'ai pas encore cité ce livre que vous venez de publier, qui est publié aux éditions Odile Jacob et qui s'intitule « L'enfant et la science, l'aventure de la main à la pâte ». C'est un livre qui est paru en octobre 2005 et qui justement essaie de dresser le bilan de 10 ans d'expérience de la main à la pâte. Et il est donc signé de Georges Charpak, Pierre Léna et Yves Quéré, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Et dans ce livre, je trouve 4 questions qu'il faut se poser, disons, pour savoir si véritablement on fait un enseignement scientifique de qualité. Et j'aimerais bien pouvoir lire ces 4 questions. A-t-on respecté un juste équilibre entre l'esprit d'éveil à la nature et l'indispensable acquisition des connaissances? A-t-on favorisé le développement harmonieux de la personnalité et de l'intelligence de l'enfant? A-t-on contribué à l'éducation à la citoyenneté, qui est l'apprentissage du vivre ensemble? J'ai l'impression que ce sont des questions plus pédagogiques que scientifiques, proprement dites, en fait.
Oui, nous savons très bien qu'il n'y a pas un enfant sur 100 de ceux à qui on fait des sciences à l'école primaire qui fera des sciences plus tard. Notre but n'est pas du tout de renforcer le potentiel scientifique de la France, d'une certaine façon.
Est-il en danger?
Ah oui,
il
n'y a pas assez
de
scientifiques actuellement, ça c'est certain. Il y a des scientifiques de grande qualité qui partent à l'étranger. Nous sommes véritablement dans une phase assez dangereuse. Il y a un autre immense domaine qui nous contrarie beaucoup, c'est le petit nombre de femmes dans la science. La science se coupe d'une certaine façon de la moitié de l'humanité.
Parce que les jeunes filles ont peur de la science ou du milieu scientifique.
Oui, oui, on leur dit souvent, je crois, dans les milieux familiaux, que la science, c'est pas pour elles, alors qu'elles sont excellentes en science. J'ai été à l'école polytechnique et j'ai eu beaucoup de fois, évidemment, à voir que les jeunes filles là-bas étaient largement aussi bonnes que les garçons, mais beaucoup moins nombreuses. Et nous voudrions, entre autres, que dès l'école primaire, donner au fond, dès l'école primaire, le goût, et si possible un goût définitif, de la science aux petites filles. N'est-ce pas? Qu'elles aiment ça autant qu'elles aiment la poésie, pas moins, pas plus, mais qu'elles aiment la musique, qu'elles aiment lire, qu'elles aiment chanter, et qu'elles aiment regarder la nature, avec des yeux un peu scientifiques. Donc tout ça, c'est tout un, comme disait Jeanne d'Arc, c'est véritablement tout un ensemble de modulation de la pensée face au monde qui nous entoure.
Je reçois dans cette émission Point de mire Yves Quéret, l'un des trois auteurs de l'ouvrage L'enfant et la science, l'aventure de la main et la pâte, paru chez Odile Jacob. Je vous propose une courte pause musicale et nous nous retrouvons dans un petit instant. Avec Yves Quéret, membre de l'Académie des sciences, nous évoquons cette expérience qui permet aux enfants des écoles primaires, en France en tout cas, de mettre la main à la pâte et d'acquérir un regard scientifique sur le monde qui les entoure. Mais justement, ce n'est pas qu'en France, Monsieur Quéret. Et je crois que cette expérience de la main à la pâte, elle a finalement acquis une dimension internationale maintenant.
Oui, c'est tout à fait curieux de voir que de façon assez concomitante, de très nombreux pays se sont aperçus qu'ils avaient le même problème que le nôtre, c'est-à-dire la quasi-disparition de l'enseignement des sciences pour les mêmes raisons finalement, la crainte des professeurs partout dans le monde devant la science. Et très tôt, dès 97-98, dès pratiquement le démarrage de la main à la pâte, un an ou deux après, personnes de différents pays sont venues nous dire « mais qu'est-ce que vous faites, ça m'intéresse ». Bref, nous avons eu, à partir de ce moment-là, des relations de plus en plus fortes avec un très grand nombre de pays, souvent par le biais des académies des sciences locales, donc des rapports d'académie à académie, pour disséminer la main à la pâte dans ces pays. Alors, je citerai les pays d'Amérique du Sud, le Brésil, d'Asie, le Chine, des pays pas tout à fait inimportants, et puis des pays plus petits et très sympathiques, le Sénégal, le Maroc, etc., etc. Donc, nous avons une bonne vingtaine de pays avec lesquels nous travaillons maintenant régulièrement.
Mais en même temps, j'ai vu qu'il y avait une déclaration de l'IAP, vous allez nous expliquer ce que c'est, qui a été signée par 68 académies des sciences. Alors, qu'est-ce que l'IAP ?
Ah, l'IAP, c'est Academy Panel en anglais, qui est en fait tout simplement l'association de la quasi-totalité des académies des sciences dans le monde, les plus grandes comme les plus petites. Et il se trouve que je connais bien cette fédération puisque je la copréside dans ses statuts.
Elle a deux coprésidents,
un coprésident du Nord, comme on dit, et un du Sud. Je suis évidemment le coprésident du Nord. Et parmi ces lignes de programme, l'IAP a mis en effet l'enseignement scientifique à l'école comme une priorité.
Alors j'en lis un des articles, puisque j'ai cela sous les yeux dans ce livre que vous avez publié, « L'enfant et la science ». Que soit partout installé ou développé ou rénové un enseignement des sciences destiné aux enfants, filles et garçons, des écoles primaires et des écoles maternelles, de nombreux tests ayant montré sans ambiguïté que les enfants, dès leur plus jeune âge, sont capables, au-delà de leur insatiable curiosité, d'une réflexion logique. Donc effectivement, 68 Académie des sciences ont signé cette déclaration à Mexico en 2003. Vous considérez cela comme un progrès, je suppose?
Oui, j'étais moi-même très étonné que 68 académies le signent. C'est pas parce qu'on signe une déclaration qu'évidemment on s'engage à fond. C'est pour ça
c'est déjà un premier pas.
Et c'est pour ça que je mentionnais une vingtaine d'académies qui sont véritablement très actives.
Voilà.
Mais c'est déjà un premier pas.
Alors, puisqu'on parle des académies, revenons à la nôtre ce lieu de l'Institut de France, l'Académie des sciences. On a su qu'elle avait développé, donc initié la main à la pâte, développé, qu'elle assure toujours son soutien, qu'elle s'engage dans la main à la pâte. Quelle est concrètement sa manière de s'engager par rapport à l'éducation nationale? Comment s'engage-t-elle?
Alors, je disais tout à l'heure qu'elle a donné son accord par un vote au tout début de l'action, la main à la pâte, mais depuis, les choses ont beaucoup évolué. Au début, elle nous a regardé avec énormément de sympathie, avec beaucoup de sympathie et puis d'efficacité, mais sans beaucoup plus. Et voilà que les choses se sont brusquement accélérées cette année d'ailleurs.
En
avril 2005, le ministre de l'Éducation nationale a signé avec le président de l'Académie des sciences, Édouard Brézin, une convention fort ambitieuse, fort importante, qui au fond lie l'Académie des sciences au ministère pour que l'Académie puisse être source d'avis, de conseils et de travaux sur toute question relative à l'enseignement des sciences. C'est-à-dire ça va bien au-delà de l'école primaire. Et ceci nous donne une responsabilité considérable. Il va falloir y faire face, il va falloir travailler beaucoup. Et comme première conséquence, notre Académie des sciences vient de créer une délégation à l'enseignement scientifique. Une
ça
délégation,
veut dire quoi exactement, oui.
Une délégation à l'Académie des sciences, c'est un ensemble de personnes dirigées par un délégué qui est un membre de l'Académie, qui travaille sur un sujet donné. Il y a eu d'abord une première délégation aux relations internationales, la DRI. Il se trouve que j'ai été longtemps le DRI, parce qu'on dit la DRI, c'est la délégation, et puis il y a le délégué.
Le DRI, c'est celui qui s'en occupe.
Le DRI, voilà.
Est-ce que l'Académie française s'est vraiment penchée sur cette nuance? On ne saura pas.
Ça serait intéressant. Donc, délégation aux relations internationales, et puis plus récemment, s'est créée une DISC, c'est-à-dire DISC, une délégation à l'information scientifique et à la communication, dont Madame Dominique Meyer est la déléguée. Et voilà qu'une troisième délégation vient donc d'être créée. C'est Pierre Léna, co-signataire
de ce livre,
qui vient d'en prendre la responsabilité. Donc ça, c'est un tournant important pour l'Académie, qui montre que l'Académie ne se contente pas de faire un vote sympathique en soutenant de loin ceux qui s'en occupent, mais véritablement s'engage complètement.
Elle s'engage dans un travail, un travail de longue haleine. Alors, M. Yves Quéré, il me reste à vous remercier d'abord d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie et à citer et à encourager tous ceux que cette question peut intéresser, l'enfant et la science. Donc c'est le titre de votre livre qui porte en sous-titre L'aventure de la main à la pâte. C'est paru aux éditions Odile Jacob en octobre 2005 et c'est donc co-signé de Georges Charpak, Pierre Léna et Yves Quéré, tous trois membres de l'Académie des sciences. Monsieur Quéré, à bientôt j'espère. Merci.
Merci. Madame.
Thank you.